En 2006, Nicolas Cage ira une fois de plus prêter sa voix à un personnage animé en 3D réalisé par le mec qui travaillait sur Jimmy Neutron. Bienvenue dans Citizen Cage.
Cop car.
I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it.
What?
I'm gonna steal the Declaration of Independence. Put the bunny back in the box. I'd like to take his face off.
Bonjour à tous et bienvenue dans Citizen Cage, le podcast qui parle des films de Nicolas Cage dans l'ordre chronologique. Je suis un de vos hôtes, Alexis Duclos, et je suis comme d'habitude accompagné par Julien Sunsao. Salut Julien.
Salut Alexis. Je suis très très chaud pour parler de Lucas Fourmi malgré lui.
Et voilà, le film est dit, donc c'est le film qu'on va regarder aujourd'hui.
J'ai l'impression d'avoir inventé le nom là maintenant en fait. C'est vraiment un template de film d'animation pour enfants tellement bateau. Il faut mettre le prénom d'un enfant et il faut mettre un truc genre malgré lui, ouais, c'est un truc qui amène de l'aventure.
J'ai l'impression que sans trop me tromper, je pense que ça doit parler d'un enfant qui s'appelle Lucas.
Oui. Et qui va devenir une fourmi. Bah, fourmi malgré lui, ça a été transformé en fourmi. Et il se trouve que c'est vraiment voilà. Le sixième site du film. Mais...
Julien et Alexis devinent les films juste à partir de leur nom.
Sachant qu'en anglais, il s'appelle donc The Hent Bully, donc le... Comment on dit ? Bully, le... j'allais dire le martyriseur. Le...
Ouais,
enfin, bah, celui qui maltraite les fourmis, quoi.
Voilà.
Donc si vous avez les... Donc, prenez le titre français et le titre anglais, vous mélangez, c'est bon, vous avez toute l'histoire, a priori.
Moi, je suis juste plus perdu. C'est qui ? Est-ce que c'est Lucas qui maltraite les fourmis ou alors est-ce que c'est... Mais parce qu'il va devenir une... Parce que ça se trouve, il ne devient pas une fourmi. Donc voilà.
Mais si, donc, parce que j'ai lu le synopsis et je vais te le lire aussi, comme ça tu auras l'info. Donc, après que le petit Lucas se soit amusé à terroriser une colonie de fourmis,
ah, merde.
Ces dernières décident de le punir en le transformant en l'un des leurs. Parce qu'apparemment, c'est une technologie que les fourmis possèdent. Et j'ai fait exprès de sortir cette blague pendant que tu vivais. Je suis très content de moi.
Ah, l'enfoiré. D'où les fourmis ont de la technologie.
Et donc, par la suite, les fourmis emmènent Lucas dans leur fourmilière qui risque d'être détruite. Car il a signé à la place de ses parents un contrat avec un exterminateur d'insectes. Ça donne, si ça envoie pas du rêve, hein. Et comme tu l'as dit, donc, c'est un film qui est réalisé par John A. Davis, donc, qui avait créé la série Jimmy Neutron, qui était aussi donc, réalisateur de... Après, a priori, il y a eu plein de petits courts-métrages avant la série qu'on avait eu en France, et qui me laisse plutôt un bon souvenir.
Oui.
Avec,
pas pour son animation, hein, parce que...
Non, c'était déjà... Enfin, déjà... C'était un peu particulier.
Pour ceux qui savent, ouais, Jimmy Neutron, son animation, c'était l'enfer. Hein.
Après, on va dire que c'était un peu le... Enfin, j'ai l'impression que c'était assez tôt dans le lancement de séries, justement, en animation 3D et plus en animation 2D. Et on va dire que le début de la 3D, que ce soit dans l'animation ou dans les jeux, ou enfin, bon, dans pas mal d'endroits, c'était un peu l'enfer.
Surtout pour une série, là, on s'entend, il fallait faire des épisodes rapidement et tout ça, mais il suffit d'aller voir, par exemple, sur Twitter ou sur Internet, des gens qui travaillaient sur Jimmy Neutron pour t'expliquer comment ils travaillaient, là, puis c'était
un nightmare. Ils travaillaient plus, autant vous le dire.
c'était horrible pour eux, apparemment. Puis ils t'expliquaient que si tu posais Jimmy Neutron, genre... Une fois sur cinq, t'allais tomber sur une frame qui était genre un nightmare où genre t'avais des bras qui traversaient des corps ou des trucs comme ça.
Bah déjà le visage du Minotron, j'imagine qu'il faisait déjà faire des cauchemars quand même. C'était assez particulier. Et donc on est avec les voix de Zach Taylor Hayson, Julia Roberts, Meryl Streep, Paul Giamatti, Bruce Campbell et bien sûr Nicolas Cage dans les rôles principaux. Donc on a quand même un casting assez 5 étoiles.
Ce que j'aime beaucoup avec ce casting, c'est, bon, mis à part Zach c'est Tyler Eisen, parce que j'ai aucune idée.
Non, il a juste fait des trucs dans Avatar après, vite fait. Mais bon, a priori, je pense qu'il devait être jeune à l'époque et qu'il n'a pas forcément continué sa carrière là-dedans. Oui.
Mais on a quand même des voix qui sont reconnaissables. Et c'est ça qui m'intéresse le plus avec ce film-là, c'est que, bon, bah, Meryl Streep, dès qu'on va l'entendre, je suis à peu près sûr que je vais savoir qui c'est. Bah, ouais. Paul Giamatti, c'est pareil. Bruce Campbell, bon, ce mec-là, dès que j'entends sa voix, je sais que c'est lui.
Oui, je pense que c'est la plus reconnaissable. Voilà. Bruce Campbell, je pense que c'est peut-être la plus reconnaissable. Mmh. Et Nicolas Cage, peut-être celle qui peut être la plus méconnaissable, dans le sens où il a l'habitude de faire pas mal d'intonations différentes.
Ouais, mais il a quand même ce ton qui est très cage, quoi. Donc,
oui. Mais tu vois, Bruce Campbell, la moitié de ses films, il joue Bruce Campbell. Donc, du coup, il a un peu une espèce de marque dont sa voix fait quand même assez, assez largement partie, quoi.
La seule chose que je me demande avec Campbell, c'est s'il va avoir son accent néo-zélandais ou s'il va avoir un accent américain ou s'il va avoir un accent anglais. Parce qu'il a toujours un accent, ce mec-là. Mm.
Et pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est l'acteur principal de la série Evil Dead, enfin donc Evil Dead 1, 2 et 3.
Ouais.
Après, donc bah, il est pas. Ah, je crois qu'il fait peut-être une petite apparition dans le remake, mais bon. Et puis
et
la,
aussi
la série télé
Evil Dead.
H et
bien sûr
Evil Dead.
Ouais, voilà.
Et la série télé Burn Notice.
Pour ceux qui connaissent pas Evil Dead, voilà Burn Notice, qui est Burn Notice. Une excellente série, moi je vous la conseille. Je sais pas si Julien.
Je l'avais noté exactement parce que je voulais absolument en parler. Et je me suis fait un peu une autre remarque aussi, tiens, en regardant ça, c'est que Paul Giamatti, j'ai l'impression qu'on le voit partout, mais en fait, quand tu regardes la liste de films, il a pas fait tant de choses que ça en fait.
Soprano, puis deux films avec Cage, il me semble.
Ouais, mais du coup, c'est vrai que. Enfin, je sais pas, ça fait partie des acteurs qui ont un peu un différentiel important entre le nombre de fois où t'as eu l'impression de les voir et le nombre de fois où tu les as réellement vus. Alors, des fois, c'est dans l'autre sens. Tu as un peu oublié, mais tu les as vus dans plein de films. Et bah, lui, non, ouais. Dernièrement, je l'ai vu dans la série Billions, par exemple. Mais en dehors de ça, ouais, bon, il a pas tant de rôles principaux à son actif, en tout cas.
Bah, pas trop de rôles principaux, mais il a quand même fait beaucoup, beaucoup de films, mine de rien.
Ouais, mais tu vois, pas forcément des rôles forcément marquants, enfin, ou en tout cas, où je suis passé à côté, mais des films où il a eu le rôle principal, j'avais noté des films comme Sideways ou American Splendor, mais c'est pas forcément des films qui ont une grande aura, on va dire, au grand public.
C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Moi, la dernière fois que j'ai vu ce mec-là, c'est en re-regardant John Dies at the End. Et puis, c'est pas un gros film non plus.
Voilà.
Mais il est génial dedans. Oui. John Dies at the End, people. Allez voir ce film. Moi, je l'aime beaucoup.
Avec Coscarelli. Coscarelli à la réalisation.
Ah, oui.
Mais c'est vrai. On parle de beaucoup d'autres choses, mais on voit qu'on parle pas trop de Lucas Formi malgré lui. Bah alors après aussi parce que je pense que tu n'as pas vu le film aussi.
Donc alors c'est
qu'est-ce qu'on peut dire quand même.
C'est ça le truc, c'est qu'il y a beaucoup de films. Je regarde vraiment beaucoup de films, donc il y a vraiment beaucoup de films que j'oublie dans ma vie. La dernière fois, je parlais avec une amie, puis elle m'a montré un film, puis j'étais genre, non, j'ai jamais vu ce film. Elle m'a montré le trailer, puis j'étais genre, mais si, j'ai regardé ce film trois fois. C'est genre...
T'étais sixième sens.
Non, c'était un film qui s'appelle Contagion avec...
Excellent. Soderbergh aussi.
Non.
Non, pas celui-là.
Pas Contagion. Non, pas Contagion.
Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment un problème de mémoire, qui est assez grave.
Confluence, je sais plus.
Le musée,
avec, avec Nicolas Brendon, le gars qui joue Xander dans Buffy. Mais... j'ai l'impression que j'ai vu ce film-là, mais comme tu disais hors antenne, c'est possible que ce soit juste que je pense juste à Fourmise ou à c'est quoi de
Mille et une pattes. C'est pas facile de mémoriser tous les films qui parlent de fourmis et tous les films d'animation avec des fourmis. C'est un sous-genre du film d'animation qui est a priori assez important.
Après là on est en 2006, si je dis pas de bêtises, Mille et une pattes et
2002.
Et l'autre c'était en
non.
C'était pas genre en 90 ?
Moi, je tente un 2002.
Ah.
Vas-y, je vais vérifier en...
Ah oui.
Je vais vérifier en direct live. Ah bah, pas du tout. 98, effectivement.
Ouais, c'est ça, hein. Donc, donc tu vois, je me dis, 8 ans d'écart, il y a peut-être un...
Non, visuellement, il est pareil.
Mais enfin bref, tu sais, c'est... il me semble que je l'ai déjà vu. C'est ça le truc, mais je peux pas, j'en suis pas sûr.
Ouais, tout ça pour pas vouloir, donc, pour pas avoir besoin de le revoir une deuxième fois. À d'autres.
Bah si,
hein.
De toute façon,
c'est obligatoire. Toute façon, tu pourras pas y, pourras pas y couper. Non, moi je l'ai pas vu.
Je peux pas juste utiliser le synopsis de Wikipédia, c'est pas suffisant.
Non, non, je l'ai pas vu moi. En même temps, c'est facile. Moi, j'ai pas vu Fourmise non plus. Je me suis concentré sur. J'ai regardé que Mille et une pattes et je me suis. Voilà, comme ça au moins, je mélange pas tous les films avec des fourmis. Après, qu'est-ce qu'on attend du coup de ce film? Pas forcément grand-chose, personnellement. Enfin, bon, les films d'animation, on va dire que si c'est mauvais, bon, c'est juste, ça va vite et tu, il se passe des choses à l'écran, tu vas pas t'ennuyer, bon voilà. Et avec un peu de chance, ouais, tu peux avoir quelques bonnes surprises avec de l'humour qui parle aussi un peu aux adultes, avec une histoire pas si gnangnan, et puis voilà. Donc au pire, on va être un peu déçu, mais ça passera vite, et avec un peu de chance, on aura quand même passé un bon moment.
Ouais, on sera agréablement surpris. Ouais, bah ouais. Donc écoute, je pense qu'il n'y a pas autre chose à dire là-dessus, hein. On va aller écouter ce film-là, puis on revient vous en parler.
Allez, à tout de suite.
À tout de suite.
Wind that blows, rain that falls, fire that burns, deliver your awesome power and transform my potion. Clock-teal! The potion is supposed to change color. It's not changing color. It's not changing color.
Et on est de retour après avoir vu Lucas Fourmi malgré lui.
C'est bien, tu fais l'effort.
J'essaye.
Bah voilà.
Deux onglets d'ouvert pour avoir énorme d'anglais et énorme français. Ça devient lourd sur mon CPU.
Waouh, bah, le mec, on enregistre depuis sa calculatrice, ok, c'est info intéressante à voir.
Eh, si ça peut faire tourner Doom, ça peut faire tourner deux. Non, même pas, je pense pas.
Doom 2016.
Bon, peut-être en tout
pas.
Cas. Bref.
Non, arrête, faut qu'on arrête de faire ça quand on n'a pas envie de parler des films. de partir sur autre chose, on a dit. C'était déjà celui-là ou dans l'intro, non? C'est pas celui-là, peut-être.
Oui, celui-là, oui.
Bah, surtout que là, on va arriver sur une période de Nicolas Cage un peu plus tard où il y aura que des films un peu pétés et qui se ressemblent. Bon, en fait, on va s'en trouver à torcher le film en 5 minutes et puis après, on va se demander comment ça va dans la vie. Mais bref, du coup, film d'animation. Hein. Donc, oui. On va commencer par ça. On a un peu parlé de ça justement quand on avait fait le film sur comment ça s'appelle, le Noël de Mr. Scrooge là.
Ouais.
Voilà, visuellement, qu'est-ce que t'en as pensé au final de ce film? Donc on le rappelle, qui était sorti en 2006, c'est ça, ouais, 2006.
Alors c'est cheap ass, hein, tu sais, on s'entend là, ouais, 2006, bon, c'est un budget 50 millions, c'est sorti pas mal, à peu près en même temps que Bug's Life. Et que n'importe quel autre film de Pixar, donc c'est vrai que ça fait mal, hein, un petit peu. C'est pas non plus dégueulasse, c'est vraiment pas le pire.
Ouais, tu vois, moi j'allais aller un peu à l'encontre de ce que tu disais en disant que j'avais été assez agréablement surpris, pas forcément sur la qualité, ouais, en elle-même, mais sur le fait que ça a pas si mal vieilli.
Non, c'est ça, c'est surtout ça en fait. C'est que voilà, c'est un peu cheapass, mais ça tient la route.
C'est à la limite, il y a plus des problèmes des fois de bon goût. Sur, oui, certaines choses. Non, c'est vrai qu'au niveau des couleurs et tout, des fois, c'est des couleurs un peu cracra. voilà. Mais sinon, sur la modélisation 3D en elle-même, ça va. C'est pas trop carré. C'est assez agréable. Il y a la personnalisation de différents personnages. Elle marche assez bien. Parce que c'est vrai que quand on est sur un film avec des fourmis,
des insectes.
C'est ça. Il faut être capable de les différencier. Ils ont trouvé un compromis, voilà, c'est intéressant, entre essayer d'être réaliste et puis essayer de personnifier, d'humaniser les fourmis et les autres insectes. Donc c'était pas horrible.
Là où je trouve où ça pêche le plus, c'est justement sur les humains.
Oui, par contre, mais c'est toujours compliqué.
Lucas,
ça va.
Ben, parce qu'ils ont passé beaucoup de temps,
voilà,
dessus. En il est tout le temps à l'écran, ils avaient besoin, mais les autres un peu moins.
Par contre, voilà, l'exterminateur.
Sa sœur, la grand-mère, l'exterminateur. D'ailleurs, l'exterminateur, ils auraient dû passer vraiment beaucoup de temps dessus parce qu'on fait beaucoup de gros plans en gros, là, parce qu'on le voit genre super immense, là, mais
Ils ont pas.
Ouais, sa première.
Voilà, ouais, t'as raison. Les personnages de. Les insectes sont plutôt bien foutus. Surtout, le personnage de Zoc, qui est joué par Nick Cage, je l'ai trouvé vraiment bien foutu en vrai.
La reine.
C'est
aussi.
Surtout que ça. Ouais, la reine, ouais. Mais c'est surtout que c'est que c'est un style visuel qui, justement, voilà, vieillit bien en fait. J'ai l'impression qu'à sa sortie, beaucoup de gens ont dû se plaindre. Parce que justement, ça ressemblait pas à Bug's Life, ça ressemblait pas à du Pixar. Mais mine de rien, ouais, voilà, on est quoi maintenant? On est 14 ans après. 15 ans après.
Ouais, je sais pas si c'est si éloigné. Hein, mais tu vois, par exemple, Lucas, c'est un peu à la limite, mais il y a un petit côté de Toy Story 1, tu vois, qui a un peu mieux vieilli, parce que c'est un peu plus récent quand même. Mais il y avait un peu ce côté-là dans les êtres humains qui sont moins réussi que les autres personnages.
Tu veux dire Toy Story 2 dans ce cas-là, parce que Toy Story 1, on voit jamais de visage. C'est justement parce qu'ils n'étaient pas capables de les modéliser. Ils n'étaient vraiment pas capables de modéliser des visages. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un tas de plans dégueulasses. Ouais, tu vois juste les pieds des gens.
Plutôt le 2, oui. Oh, mais ils sont assez proches, de toute façon. Il me semble, au niveau des sorties.
Ils sont à 2 ans d'écart, ouais. Quelque chose comme ça. Mais justement, il me semble que Toy Story 2 est probablement autour de 2002, quelque chose comme ça.
Ouais, voilà, il y a quand même de l'écart. Mais donc c'est un peu plus lisse. Mais ouais. Voilà. Donc moi, ça va. Je m'attendais à pire. Donc. Là-dessus, j'ai pas. Ça m'a pas gêné pendant le film, quoi. C'était au niveau où c'était pas gênant. C'était pas.
Exact.
À part les couleurs cracra, voilà, je trouve que c'est bon. Ça, c'était pas très réussi. Mais sinon, bien. Et puis pareil, au niveau de l'animation, peut-être. Je sais pas si t'as quelque chose à dire là-dessus. L'animation en elle-même, oui, donc la fluidité, etc.
Là-dessus, c'est vrai que je peux apporter mon grain de sel.
Bah, oui.
Je travaille là-dedans, mais. Non, en vrai, c'était pas. C'est pareil, pour avoir vu beaucoup de projets différents, de projets qui ont beaucoup d'argent versus des projets qui n'ont pas d'argent, pour 50 millions, c'est pas dégueulasse du tout. C'est comme tout le reste, en fait. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire non plus. Ils s'en sortent en utilisant des techniques d'animation qui sont assez ingénieuses parfois. Mais tu sens un peu qu'ils ont pas le budget des fois. Tu sens qu'ils réutilisent beaucoup d'animation. Tu sais, une fois qu'ils ont une bonne animation qui marche, surtout l'animation de marche, machin. Bon, bah, c'est normal, c'est un cycle d'animation, tu le réutilises souvent, c'est ça. Mais tu sens que par contre, ils ont pas fait beaucoup de variations sur leur cycle d'animation, ils ont pas fait beaucoup de choses. Mais les gros plans marchent bien. Ils ont plutôt bien réussi certains trucs, quoi. Et puis, quand il y a une ou deux batailles où il est censé avoir un bon 15, 20, 30, 30 trucs en même temps qui se battent, c'est pas.
Je trouve que lors des scènes d'action, ils s'en sortent bien pour réussir à donner une impression justement, qu'il y ait beaucoup de mouvements, de fluidité, etc., sans pour autant montrer trop de personnages en train de faire des actions complexes. Il n'y a pas de bataille, il y a une bataille où ça se bat avec les mains, et il y a besoin donc du coup de faire des mouvements de bras, des choses un peu complexes, mais sinon la plupart du temps ils vont réussir un peu à tricher, donc ça va, quoi. Je trouve qu'il y a quelques scènes qui manquent un peu de fluidité, mais c'est pareil.
Non, pas pire, c'est un bon film d'animation de série B, quoi. Tu sais, c'est pas classe A parfait, mais on n'est pas en train de regarder Jimmy Neutron, quoi. Donc
c'est le réalisateur de Jimmy Neutron, et voilà.
C'est pour ça que
visuellement il y a quand même quelque chose.
Oui, non, mais Jimmy Neutron est notoriously dégueulasse parce que les gens avaient pas le temps de travailler, en fait. Ils devaient livrer un truc en une semaine, puis les animations c'était dégueulasse.
Ouais,
ils avaient clairement du temps, puis
après c'est le réalisateur du film, et j'avoue que le film Jimmy Neutron je l'ai pas vu, donc c'est peut-être très très proche.
Peut-être, aucune idée.
Ça, voilà, on saura pas vous indiquer là-dessus. Bon, bah écoute, on a fait ce premier point visuel. Je te propose de maintenant de faire un petit résumé de l'histoire. Je te laisse commencer.
Le résumé de l'histoire, c'est si vous avez vu Maman, j'ai
rétréci les enfants.
Voilà. Non, un petit peu différent. Mais en gros, donc c'est un jeune enfant de 10 ans qui vit à Las Vegas, qui s'appelle Luca Nicol, qui est joué par Zach Tyler Eisen, dont je ne sais pas qui c'est.
Non, mais on avait dit qu'il n'avait rien fait d'autre.
Voilà, qui est plus ou moins bully par le, bah, le gros gars de la, ouais, de la rue, là.
Il se fait martyriser par un enfant qui est plus grand et plus costaud que lui.
Et qui arrête pas de lui dire, bah, je suis plus grand que toi, alors tu peux pas battre. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, mais je l'aime beaucoup.
Et, l'accent savoyard.
Non, j'arrive plus à le refaire. Bon, bref. Et en gros, il est laissé lors d'une journée. En gros, ses parents partent en vacances et il est laissé avec sa sœur Tiffany, qui est jouée par Alison Mack, et sa grand-mère, qui est jouée par Lily Tomlin. Sa grand-mère qui est un peu barrée, qui est un peu sénile, quoi.
Ouais.
Je pense que des aliens vont venir l'enlever, mais en même temps, elle avait raison.
Je sais pas si elle est sénile, ou en tout cas, elle fait partie de cette tranche de la population qui a peur de se faire enlever par des aliens.
Voilà. Et en gros, bah voilà, les parents partent en vacances pour retourner dans une espèce de honeymoon.
Ils vont à un endroit où ça parle espagnol, voilà. Apparemment.
Voilà. Et en gros, Lucas, il a un peu un problème, c'est que justement, comme il se fait martyriser par l'autre gars, Steve, bah, il prend sa frustration sur les fourmis de la maison, parce qu'il y a une fourmilière où il s'amuse à balancer de l'eau dedans, ou à les écraser, voilà, blablabla. Et c'est là qu'on rencontre, plus ou moins, bah, deux fourmis qu'on va suivre, un qui est un sorcier fourmi, voilà. Ça, oui. C'est dit.
Oui,
qui s'appelle Zoc.
C'est la seule partie pas réaliste du film. Sinon, tout le reste de l'histoire est très réaliste. Donc.
Ben, c'est un peu bizarre. Enfin, c'est un angle que je trouve intéressant. Qui s'appelle Zoc et qui est joué par Nicolas Cage. Et sa copine qui s'appelle Hova, qui, elle, est jouée par Julia Roberts. Mm. Qui, elle, est fascinée par les humains. Tandis que Zoc, lui, est considéré comme des monstres. Tout simplement.
C'est ça, donc on va avoir justement une manifestation de la colère de Lucas sur la fourmilière en début de film, et on va vivre ça du point de vue des fourmis, et ça va pousser Zoc, qui était déjà sur le coup a priori, mais vraiment à finir de fabriquer sa potion, une potion qui est censée résoudre tout le problème des humains. Ou en tout cas, déjà, le problème de Lucas, qui, je sais plus comment, il le surnomme comment déjà, The Destroyer, voilà.
Ouais, le ouais. Voilà,
parce que pour eux, c'est quelqu'un de surpuissant. Et justement, ils vont réussir, je coupe un peu une partie de l'histoire, mais...
Ouais, on peut aller un peu plus vite
voilà,
là-dessus.
Parce que l'histoire commence vraiment quand ils réussissent, donc ils s'introduisent chez lui. Et ils vont lui mettre la potion. Il passe par, par les narines. Non, par l'oreille. Voilà,
son oreille.
Dans
son
l'oreille.
Oreille.
Et ce qui fait que Lucas va être rétréci et va se retrouver à la taille d'une fourmi, tout simplement.
La seule chose qu'on peut dire et qu'on peut revenir vite fait, parce que c'est un point important, c'est tout simplement que le matin même, il y a un exterminateur qui vient parler à Lucas. Stan Beals, qui est joué par Paul Giamatti. Et en gros, il convainc Lucas de signer un contrat pour qu'il vienne exterminer
qu'il
des.
Puisse intervenir.
Des voilà. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est quoi cette comment t'appelles ça ? C'est quoi ce marketing en fait ? Tu vas chez les gens pour forcer les enfants à signer un contrat pour que tu viennes exterminer. Tu peux pas juste venir parler aux parents en leur disant vous avez des problèmes dans votre.
Ouais, mais en même temps, je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui payent un exterminateur parce qu'ils ont une fourmilière dans leur jardin. Ça paraît un peu extrême.
J'ai l'impression qu'ils ont aussi des guêpes dans leur jardin, donc ça c'est un peu plus... c'est pas n'importe quel
c'est un
type
jardin,
de guêpe, quoi. Ouais,
Oui, c'est des guêpes qui parlent, mais bon, ça c'est un autre problème.
non, mais c'est des guêpes, c'est des tarantulas hawk wasp qui sont quand même assez dangereuses, donc c'est pour ça...
Excusez-moi,
c'est plus
monsieur...
pour ça que pour les... j'ai fait mes recherches. Ouais.
Merci Charles Darwin. oui, non, c'est vrai que c'est assez important. On apprend du coup que, vu qu'il a signé le contrat, dans quelques jours, il y a l'exterminateur qui va venir avec tout son appareillage et qui va venir détruire tout ça. Donc, ça fait partie un petit peu des enjeux du film. On a Lucas qui est réduit à l'état de fourmi et donc il est kidnappé et amené dans la fourmilière. Et là, il est présenté à la reine. Et donc là, on a deux camps qui s'opposent. On a
qui est joué par Meryl Streep.
Meryl Streep.
J'en reviens pas, ce film, yo, ça n'a aucun sens. Mais bon, ouais, pardon, parce que moi je t'ai coupé.
Non, 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 t'as raison de préciser, parce que justement, ça fera partie des, un peu des points que j'ai envie d'aborder un peu plus tard. mais oui, on a deux camps qui s'opposent. On a du côté Zoc qui, lui, bah, il veut tout simplement l'éliminer en le mangeant. En mangeant Lucas.
Voilà.
Et de l'autre côté, Ova qui elle est plutôt dans l'idée de maintenant qu'il est là et qu'il est sous notre contrôle, on peut le transformer, enfin le faire changer d'avis pour que en fait sur le long terme ça ait de l'intérêt pour les fourmis, on le renvoie dans le monde et peut-être que voilà, je sais pas, il va convaincre tous les autres gens de pas attaquer les fourmis, enfin qu'il va les protéger en fait.
Bah ouais.
Et du coup, ça a un plus gros intérêt sur le long terme. C'est risqué, ça demande du travail, mais ça a quelque chose sur le long terme qui est intéressant. Et au final, la reine va être plutôt du côté de Ova et va dire, voilà, maintenant il fait partie de la fourmilière, il fait partie de la colonie, il doit devenir une fourmi comme nous. Et il ne sera pas libéré et on lui donnera pas la potion pour le laisser être à nouveau grand tant qu'il ne sera pas totalement fourmi.
Ah, au moins, ouais.
Et c'est Ova qui doit s'occuper de lui, en fait. Mais c'est vrai que...
Bien sûr, absolument. Et c'est là, justement, qu'on commence un peu son entraînement de fourmi. Donc, Ova l'emmène rencontrer quelqu'un qui s'appelle Krilla, qui est joué par Regina King, qui est, en fait, en charge des gens qui vont ramasser la bouffe. On rencontre aussi un personnage haut en couleur qui s'appelle Fugax, qui est joué par un Bruce Campbell de toute beauté, qui est lui en charge en fait des scouts, qui est censé retrouver, découvrir la nourriture, et eux ils sont censés aller les récupérer. Donc là s'ensuit un montage un peu où on voit Lucas qui apprend à devenir une fourmi, mais il peut pas parce que c'est un humain. Donc il n'est pas capable de grimper des murs, il n'est pas capable de faire n'importe quoi parce que c'est un humain. Il
non,
a
pas c'est
pas
parce
pattes,
que c'est un humain, pas... Alexis, tu dis n'importe quoi. C'est parce qu'il ne le veut pas assez.
Ah oui, ouais, ouais.
C'est quand on veut, après, ouais.
On peut.
La physique et tout ça, ça n'a aucune prise sur...
Rien à voir avec le fait que les fourmis sont capables de porter 10 fois leur poids, y a pas de, et que nous on peut pas, mais aucun
rapport. Tu as assez né de vérité scientifique pour tous les podcasts.
Oui, pardon,
maintenant tu fermes les yeux sur tout ça et tu acceptes. Ouf, ton âme d'enfant.
Voilà, et voilà, au bout d'un moment, ils doivent aller récupérer, donc, parce qu'en fait leur grosse nourriture à eux, c'est des jelly beans, quoi, c'est du... comment on appelle
je sais
ça
pas, on n'a pas trop d'équivalent en France, on pourrait parler de dragibus à l'arrière.
Ouais, bah voilà,
c'est
oui,
un
bah
peu
c'est exactement
là,
ça. En fait.
C'est pas exactement la même chose, mais des bonbons de toutes les couleurs, quoi.
Voilà, sucré comme ça.
Comme la plupart des bonbons.
Il n'y arrive pas, quoi. Il n'y arrive pas vraiment. Ensuite, si je me souviens bien, c'est au moment où les fourmis se font attaquer par.
Les fameuses.
Par les Tarantula Hawk Wasp. Donc les guêpes, s'ils se font
français.
Attaquer par des guêpes. Tarantula Hawk Guêpe. je sais pas ce que c'est.
Tarantule Faucon Guêpe. Donc, ouais. En fait c'est une espèce de chimère, quoi.
Ouais, bah en plus
c'est
un
bec de faucon, des pattes de tarantule et une queue de guêpe.
Elles ont pas l'air sympathiques, quoi. Et sur le coup, tout le monde pense que Lucas il est un peu naze parce qu'il s'est enfui et tout ça, il essaye de s'échapper, mais il finit par tomber sur un pétard en fait qui était là, et il fait exploser une des wasps, des guêpes, qui fait que toutes les autres s'en vont. Et
ça, au final,
sa
connaissance du monde extérieur lui a des avantages que comparé aux fourmis et aux autres insectes.
Voilà, et tout le monde semble l'apprécier, sauf toujours Zoc, parce que voilà, c'est Nick Cage, et Nick Cage n'aime pas les gens.
Non, et puis surtout, il était là au moment où il est fait, et il sait très bien qu'il n'a pas fait ça pour sauver la colonie, mais pour sauver lui-même. Parce que juste avant, il avait abandonné Ova, donc voilà.
Ce qui est probablement pas faux, on s'entend au moment où on est dans le film. Voilà, tout à fait. Ensuite, voilà, il y a une petite fête. Lucas devient drunk avec du honeydew, ce qui est apparemment fun. Et c'est là qu'il apprend qu'en gros... il y a deux choses qui sont censées arriver dans leur vie. Ils ont une espèce de comment on appelle ça, de prophétie. La première, c'est que la grande fourmi, la mère des grandes fourmis, là, je sais pas comment on appellerait ça, est censé revenir et que un
méchant qui est la première reine qui a fondé la première colonie, quoi.
Oui, voilà. Et qu'il y a un méchant Cloud Breather qui est censé venir détruire la colonie. Et c'est là que Lucas rappelle que, ah zut, merde, le Cloud Breather, c'est peut-être l'exterminateur que j'ai signé pour qu'il vienne, quoi. Donc là, lui, maintenant, comme il commence un petit peu à comprendre un peu plus les fourmis, il veut les arrêter. Et en même temps, j'ai surtout l'impression que c'est aussi parce que lui, il est là et que si jamais l'exterminateur, il vient, il va aussi crever, quoi.
Ouais, il y a un peu de ça, mais en tout cas, là, il s'est pris d'affection quand même pour les fourmis. Et inversement aussi.
Oui, oui, je pense aussi un petit peu. Je pense qu'il a beaucoup d'affection, en tout cas pour
Ova.
Ova, merci. Ça va pas bien. Mais en tout cas, en gros, là, il est genre, ah, il faut que je retourne dans ma maison pour essayer d'appeler l'exterminateur et l'annuler. Et les gens sont genre, non, je laisse pas partir tout seul. Puis là, il leur dit, ouais, mais chez moi, j'ai des dragibus, quoi. Venez, allez, viendez, on va chez Haribo.
Alors que les dragibus, c'est dégueulasse. C'est ça que... moi, c'est là que je m'arrête dans ce film, que je perds toute crédibilité.
Moi, j'aime ça, les dragibus, à part ceux à la réglisse, mais... voilà, quoi.
Oui, ceux-là sont encore pires, mais...
Ouais. Oui. Mais en tout cas, donc tout le monde est plus ou moins OK. Et finalement, il y a Krayla et Fugas qui décident d'aller l'aider parce que.
Pour faire avancer le scénario, je crois.
Ova, Fugas et Krayla, oui, voilà, pour faire avancer le scénario, tout à fait. Donc là, tous les quatre retournent dans la maison. Et bien sûr, ils sont tous rétrécis. Donc il y a un petit moment un peu cool où ils doivent essayer de traverser un tapis.
Ça, c'est vrai quand même. Ce genre de. En fait, tous les films qui ont un peu joué là-dessus, où il y a des personnes qui sont rétrécies, en fait, ce qui nous intéresse, c'est toujours la même chose. C'est ces petites scènes où, où tu es dans un monde trop grand et du coup, tout apparaît différent et tu es obligé de trouver des petites techniques pour avancer, quoi. Ça rappelle Micro Machine, le jeu Micro Machine.
Ouais, bah ouais.
Ça marche toujours. Genre, quoi.
En ce moment, comme je suis un peu en train. Je joue pas, mais je regarde beaucoup des gens jouer à Grounded, le jeu de. Oui. De Double Fine, qui est littéralement ça, où t'es rétréci, puis donc ouais, il y a ce côté un peu whimsical qui est super cool, quoi.
Je sais pas pourquoi, mais ça marche toujours, ouais.
Ça marche souvent. En plus, faut reconnaître, soyons honnêtes, c'est pas si mal fait que ça dans ce film là donc
non, mais donc par contre ça prend une part assez minime du film, je trouve.
Ouais.
Au final, la petite partie de plaisir par rapport à ça, elle est là, quoi. Parce qu'en fait, ils vont utiliser des pétales de rose et un ventilo pour faire
traverser,
comment ça s'appelle
du delta plane.
Ouais, voilà, ça, du delta plane en gros et traverser le tapis qui normalement était super long à traverser parce que c'est un tapis à poils longs. Voilà. C'est comme les chiens. Il y a des chiens à poils longs et des chiens à poils courts. Ça marche aussi avec les tapis. voilà, mais au final c'est la seule scène qu'on va voir qui est vraiment fun à ce niveau-là, parce que après quand ils vont il y a la sœur à un moment qui arrive et qui va les choper en train de voler les dragibus, hein,
exact,
qui est la traduction officielle de Jelly Bean. J'adore ce podcast.
Oui, voilà.
Pendant que Lucas, lui, de son côté, est en train de téléphoner, donc il saute de touche en touche pour essayer de téléphoner à l'exterminateur et annuler le contrat.
Malheureusement, bah oui. Il se trompe d'un numéro et il appelle une place de pizza.
Qu'on appelle en France pizzeria.
Merci. Et il est genre, annulez tout, annulez le contrat. Et t'as l'autre de l'autre côté, il a fait, mais qu'est-ce que vous voulez que j'annule? Vous n'avez pas commandé de pizza.
Je me suis marré. Ah, j'ai ri.
Ah ben J'ai trouvé ça cocasse.
Non, en vrai, ça va, c'était un moment assez marrant.
Lucas, lui, il pense qu'il a annulé l'exterminateur, mais c'est pas le cas.
Donc, ouais, comme je disais, la sœur qui arrive, qui les interrompt. Et là, il s'échappe par les tuyaux par la tuyauterie, quoi. Donc, au final, le moment dans le monde des humains, il est assez court parce qu'en fait, c'est le seul moment où ça va arriver. Oui. Tout le reste se passe dans le jardin.
Oui, c'est ça.
Mais voilà, bon, ça fera partie des choses qui sont assez étonnantes, je trouve, mais c'est un choix, en fait. Ils ont fait le choix de que ça se passe dans le monde des insectes plutôt que d'avoir des insectes et une personne miniature qui va se retrouver dans le monde des humains.
Exact.
Mais oui, ça a totalement échoué. Alors, je ne me rappelle plus exactement s'il y a des péripéties au milieu, mais en fait, au final, il y a l'exterminateur qui se pointe peu de temps après. Et là, bah,
oui, voilà,
c'est la grosse panique.
Et bon, bah, Lucas, il essaie d'avoir un peu il a un plan, quoi. Il veut avec Zoc. Bah voilà, il y a aussi un petit. On en a pas parlé, mais il y a aussi ce petit moment justement où quand il retourne chez eux, Zoc, il se fait manger par une grenouille ou je sais pas quoi. Lucas se fait manger par une grenouille, donc Zoc se fait manger par la grenouille aussi pour l'aider. Sauver, ouais. Donc ils se rapprochent un petit peu. Ils ont un petit peu ce rapprochement qui fait que maintenant ils sont.
Zoc passe de son côté.
Voilà, ils s'entendent un petit peu. Et justement, comme tu dis, voilà, l'exterminateur arrive le lendemain et Lucas et Zoc décident d'aller demander aux guêpes de l'aide. Ce qui, au début, les guêpes rigolent jusqu'au moment où une des guêpes arrive et décède devant eux parce qu'elle est enfumigée par l'exterminateur. Puis là-dessus, les gars sont genre, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et leur plan, c'est tout simplement d'utiliser la potion pour le faire rétrécir, pour essayer de faire rétrécir l'exterminateur pour plus facilement le battre, tout simplement.
Mm-mm. Oui, bon, si le plan a marché une fois, pourquoi ne pas le réussir une deuxième fois, hein?
Bah oui, hein, tout à fait.
On va arriver justement à cette scène, c'est la grande scène de bataille, un petit peu, tel un Seigneur des Anneaux. tout le film a été construit pour arriver à cette scène. Non, mais c'est vrai que c'est un peu l'idée, quand même, c'est d'avoir une scène épique.
Oui.
D'ailleurs, allez, j'en profite, je vais en parler à ce moment-là. J'ai trouvé la musique excellente, moi, du début à la fin du film. Elle m'a vraiment. Elle a vraiment ce côté épique, justement. Et puis, quand on regarde la personne derrière, c'est pas n'importe qui, parce que c'est John Dibney. Donc, ça va pas forcément vous parler comme ça, mais c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience dans l'industrie, qui a travaillé quand même pour des gros films, notamment La Passion du Christ de Mel Gibson. Où il avait gagné pour ça une nomination aux Oscars. Donc, même si c'est pas forcément un nom plus connu, il a quand même sur son palmarès quelques films assez intéressants. Et ouais, on le ressent que c'est. En fait, on sent que c'est de la musique de film et pas de musique de film d'animation. Ça fait très. Et ça marche bien, quoi.
Non. Mais je pense que justement, c'est ça qui rend le film aussi un peu meilleur qu'il pourrait l'être s'il n'avait pas une bonne. Tu sais, genre, ça élève le film et c'est, du coup, ça fait qu'au final, on a quand même du bon goodwill pour le film, alors qu'on aurait peut-être été plus critique
oui,
si
ça
n'avait pas été le cas.
Oui, ça clairement un pourcentage non négligeable, justement, à la réussite de ces scènes d'action.
Donc, oui, exact.
Donc voilà, là on a nos fourmis qui sont jaugées, montées sur les guêpes pour s'en servir de monture et qui vont partir à l'abordage. Donc voilà, on a vraiment là une iconographie du film, à la fois la Star Wars un petit peu, où ils doivent mettre la potion dans l'oreille, c'est un peu comme quand ils doivent tirer là sur l'étoile noire dans la seule faille. Il y a un peu ça, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie référence là-dessus avec tous les mecs qui sont sur les guêpes, c'est un peu tous ceux qui sont dans les vaisseaux là, avant de partir à attaquer l'étoile noire. Ils ont tous un petit mot à dire comme les autres dans Star Wars dans leur cockpit où ils doivent tous dire une phrase avant de partir pour qu'on les personnifie un petit peu, il y a un peu de ça.
Mais en même temps ça marche, c'est fun,
gentil. Il n'y a pas de souci à emprunter justement les codes à d'autres types de films, ça renouvelle un petit peu le genre aussi.
Mais en même temps je me rends compte que c'est quelque chose qu'ils font beaucoup dans le film en général. Il y a beaucoup de clins d'œil à d'autres types de films. Il y a pas mal de moments où ça ressemble un peu à de l'horreur, surtout quand il y a la grenouille. Donc c'est quand même le réalisateur et le screenwriter ont quand même fait un travail. Pour être honnête, bien sincèrement, je pense que ce film aurait eu tout deux fois le budget qu'il a eu. Ça aurait pu être honnêtement un film de qualité. C'est genre. Excellente là, c'est tu sens que les shortcomings de ce film là viennent surtout du budget. pour être honnête, je pense.
Ouais, je sais pas si je suis forcément d'accord, mais je trouve qu'il a des défauts qui sont aussi... Enfin, qui sont pas forcément liés non plus au budget, mais bon, après, on fera un point à la fin, on en reparlera.
Oui.
Mais.
C'est vrai que là, on arrive à la fin du film. D'ailleurs, on a complètement oublié de faire un spoiler zone, mais en même temps, soyons honnêtes.
De toute façon.
Ils attaquent le.
Oui, bah, évidemment qu'ils allaient attaquer. Ils n'allaient pas le laisser comme ça. Mais le spoiler, c'est est-ce qu'ils vont réussir?
Ah, tu veux faire... Bah, on fait le spoiler maintenant.
Non, en vrai, je pense pas qu'il y ait forcément besoin.
Non, mais c'est ça que je veux dire, c'est que soyons honnêtes, le film est quand même assez... assez convenu, donc...
Ça fait partie de la panoplie des films d'animation, généralement. T'es jamais surpris, mais je sais pas, les films d'animation, on a l'impression qu'ils ont un espèce... Ils partent toujours avec un point de plus que les autres films. Je sais pas exactement pourquoi, mais il y a un petit peu ce côté où t'as moins besoin de faire un scénario qui va retourner le cerveau des gens... pour faire passer un bon moment. En fait, tu demandes pas la même chose, tu demandes juste de passer un bon moment. Et donc, effectivement, il y a moins besoin d'un. Il n'y a pas de retournement de situation à la fin, là, on peut déjà le dire.
Donc, c'est pas un problème. Ouais, voilà. Donc, soyons honnêtes, soyons francs. La bataille est quand même cool. Ils finissent par réussir à lui injecter la potion.
Ouais.
On vous dit pas par où, comme ça vous laisse un petit élément de surprise.
Ouais.
Bon, qui est bien sympathique.
Ouais, peut-être
qui est bien
sympathique, non mais dans probablement. Mais reproche au film à la fin du.
Ça le fait rétrécir, mais juste à moitié. Il redevient juste un enfant.
Parce qu'ils en.
J'ai pas repris.
Parce qu'ils lui mettent moins de potions, je pense.
Peut-être. Et en gros, ils réussissent à faire en sorte qu'il s'en aille. Puis tout le monde est content, c'est bien beau, c'est la vie, et on a le droit à la reine Meryl Streep qui donne à Lucas un nom de fourmi, en mode maintenant t'es une fourmi comme nous, et
c'est quoi son nom de fourmi déjà? C'est Rokia, non?
Complètement oublié.
C'est aussi, parce que c'est aussi le nom d'un aspirateur autonome pour moi. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont tous un peu des noms de marques, Zoc ou ça pourrait, je pense que ça pourrait être comme objet du quotidien.
Fugax, ouais.
Fugax, ouais, ça c'est un produit chimique, c'est obligé. Bref, tout est bien qui finit bien.
Voilà, ils finissent par le faire retourner à sa taille pendant que Fugax dit hey. Ramène-nous un peu à manger de temps en temps, s'il te plaît. Je sais pas pourquoi. Bruce Campbell, il vient d'Australie, donc comme c'est en bas, je lui donne un accent du Nord. Ouais. Tout va bien.
Bah après, c'est vrai qu'on peut le dire quand même aux auditeurs que tu es la voix française officielle de Bruce Campbell.
Tout à fait.
Donc, tu es quand même bien plein.
Si vous regardez Evil Dead, c'est Evil Dead 2 de 1980, quand j'étais pas né.
C'est pas le 1, c'est moi la voix officielle. T'étais pas encore, t'étais trop jeune.
Non, le 1, non, c'est un peu, c'est pas moi. C'est, comment il s'appelle?
Stéphane.
C'est Pierre Belmar qui fait la voix de Bruce Campbell.
C'est vrai que j'ai trouvé ça bizarre quand au milieu du film, il s'arrête pour essayer de vendre des trucs aux gens.
Et aujourd'hui, une tronçonneuse, les gars! Une bonne tronçonneuse!
Pierre Belmar qui a aussi l'accent du Sud.
le film termine. Et Lucas revient, ses parents arrivent au même moment. Et Lucas réussit à battre Steve, le bully du début, parce que il se rend compte qu'il est plus fort quand il est à plusieurs, et du coup il retourne tous les gars qui sont avec Steve.
J'adore cette morale de fin. Il y a quelqu'un qui vous martyrise, il faut s'unir avec d'autres gens pour le martyriser à votre tour.
Voilà.
Et ça, les enfants.
Après, tu peux aller jouer chez les enfants.
Oui.
Des gens qui t'ont détesté pendant genre 6 ans. Et les gars, ils se retournent, font genre hey, tu veux venir jouer avec nous? Et les gars, ils sont genre ouais, j'arrive.
Ouais. En fait, tu vas jamais y aller, c'est ça qu'on sait pas.
C'est ça, ouais.
Ouais, allez. Ouais, je vais retourner sur ma console, là.
J'ai juste donné des dragibus à mes amis, puis après, je retourne jouer à ce jeu de merde auquel ils jouent, là. Je sais pas ce que c'est.
Ça a l'air assez nul.
C'est vraiment naze, mais bon. Voilà, et c'était Lucas Fourmi malgré lui. Un film qui, mine de rien, je pense qu'on en a quand même plus ou moins parlé en parlant du film qu'on a au final pas si mal apprécié que ça en fait.
Ouais c'est ça, enfin en tout cas voilà, ça fait passer un bon moment. Après au niveau de l'ambiance générale et notamment enfin, après c'est un peu lié ça va être de l'humour. C'est vrai que c'est un film oui. quand même qui est assez enfantin. C'est pas un film entre guillemets à la Pixar où genre ça va plaire aux enfants et puis les adultes ils vont aussi avoir leur compte.
Ouais,
non,
ouais.
C'est quand même assez enfantin. L'humour il est quand même pas mal piqué hein.
Oui.
Et voilà, quand il tape deux pierres, ça fait le bruit d'un prout et puis voilà ce qui arrive à l'exterminateur à la fin hein. Donc voilà,
qu'on
garde en surprise parce qu'apparemment voilà, ça peut vous donner envie de voir le film. Mais non, mais après c'est pas forcément un défaut du film, c'est juste que il s'est positionné sur un public plus jeune que d'autres films d'animation peuvent le faire, surtout récemment, on a un peu l'habitude de voir des films d'animation qui essayent de viser plusieurs publics, voire même qui sont juste pour adultes, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais là, il est clairement pour un public plus jeune, peut-être le public qui regardait Jimmy Neutron un peu cet âge-là, possiblement.
Oui.
Ce qui fait qu'au niveau du scénario, au niveau de l'humour, on s'y retrouve pas forcément toujours. Mais en même temps, c'est un peu logique. Pour moi, la qualité principale du film, c'est son casting de voix.
C'est assez incroyable.
Je les trouve tous très bons.
Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas de...
Pas de fausse note, ouais.
C'est ça, là. Soyons honnêtes, parce que le film d'avant qu'on avait vu de Nick Cage, hein, comme tu disais, c'était... Christmas Carol ou je sais pas quoi, là, truc de Noël, là, où il est 3 secondes dedans et où il faisait absolument aucun effort. Donc ça, c'est son deuxième. On pouvait s'attendre à ce qu'il fasse aussi aucun effort ou rien. Non, il y va dedans. Là. Je l'ai aimé, là, il y balance du pathos, il y balance de la mélancolie, mon gars, c'est cool. Meryl Streep qui fait la reine, moi, ça me fascine. Julia Roberts, tu vois, ça c'est fou.
Ah ouais,
Julia
Roberts, je l'ai pas reconnu, moi.
Je ne l'ai pas reconnu jusqu'à la fin. J'ai vu son nom dans les génériques. J'étais genre, oh, waouh, ok.
Et pas dans l'intro qu'on a enregistré, évidemment.
Non, non. Parce que je ne l'ai pas regardé en même temps. Je n'ai pas arrêté de repousser. Je ne voulais pas regarder ce film. Je voulais surtout pas regarder World Trade Center, mais je ne voulais pas regarder ce film non plus.
Oui, c'est vrai qu'on s'est un peu moqué sur les réseaux, notamment en disant, oh là, ça va être une tannée et tout. En vrai, bon, je savais que ça n'allait pas être si terrible que ça. Mais bon, ça aurait pu être pire, clairement.
Ça aurait pu être vraiment pire.
Mais ouais, ils sont impressionnants, j'ai trouvé. Parce que autant l'humour, on l'a évoqué, il est peut-être parfois un peu simplé, un peu voire un peu gras, enfin un peu.
Wow.
Ça va, mais genre, voilà, un peu enfantin. Autant, je trouve qu'il y a beaucoup de justesse et de profondeur et de différentes couches de subtilité dans le jeu des acteurs. Après, bon, quand on regarde les noms derrière.
Ouais, ça aide un peu. Hein.
On peut comprendre parce que c'est pas n'importe.
Tu vois, du coup, ça nous permet justement de bifurquer vers Nick Cage en particulier. Parce que personnellement, donc comme je viens de dire, voilà, il met du pathos, il met des trucs. Alors, je vais quand même reconnaître que je pense malheureusement qu'au final, c'est lui qui pêche un peu le plus. Et c'est surtout dû au fait que il a beaucoup de temps d'écran. Et c'est surtout parce que j'ai l'impression que Nick Cage, quand il doit se forcer à rire, il a du mal. Et parce que les moments où il est censé jouer avec Ova, puis qu'ils sont censés rigoler un peu, là, j'étais genre, c'est quoi ce rire? On dirait qu'il se force. Là, j'ai eu un peu de mal, mais pour tout le reste...
Je pense que c'est surtout parce que c'est aussi un peu la vision du couple heureux pour les enfants.
Oui.
Il y a un peu ce côté-là qui fait que c'est un peu surjoué.
Mais je pense aussi que peut-être que Nick Cage n'est pas encore tout à fait habitué à faire du voice-over. Peut-être qu'il est aussi...
Bah, sur le reste, je le trouvais vraiment impeccable. Mais oui, je vois ce que tu veux dire.
Il y a des moments où il est un peu robotique, où il essaye de faire quelque chose de... Parce que le truc, c'est ça, c'est que Nick Cage, il a cette espèce de manière de faire du cinéma kabuki. Tu sais, pour lui, il faut que ce soit grand, il faut que ce soit grandiose. Mais quand tu as juste ta voix pour faire ça, souvent, ça peut se... représenté comme du surjeu un petit peu, mais sinon vraiment cool.
Ça allait. Après c'est aussi le jeu du film d'animation, c'est que tu peux te lâcher un peu. Je pense la chose qui lui coûte le plus à ce niveau-là dans le film en fait, c'est le fait qu'il est le personnage avec l'arc narratif le plus évident, enfin
oui.
Et surtout celui où il y a par contre des plus grosses différences. Parce que tous les autres, ils ont un personnage, il faut rester dans leur personnage jusqu'à la fin. Lui, il a un arc narratif où il doit évoluer. Donc au début, il doit être clairement contre Lucas, et après, il devient clairement pour. Et je pense qu'il y a ça qui fait que le personnage, il se force un peu plus, que Nicolas Cage est un peu plus forcé à avoir des... dans l'intonation, parce qu'il doit montrer clairement une cassure entre le Zoc du début et le Zoc de la fin. Et au final, c'est
il
aussi...
le fait d'ailleurs. Hein.
Et ouais, voilà. Et c'est un personnage qui a, au final, bon, qui est un peu convenu dans son évolution. Alors que, par exemple, Bruce Campbell, on lui a juste dit, bah, t'es un personnage, tu dois être le personnage marrant, fais-toi plaisir. Et voilà, ça, il sait faire.
Ah, il s'est fait,
mais
s'est
je pense
fait
que tous les autres rôles sont plus simples à jouer que le sien, que c'est Nicolas
Cage.
Ils sont
très unidirectionnels, ouais, t'as raison. C'est, ils changent pas, ils ont pas beaucoup Ouais, Nick Cage, lui, il a son changement. Et c'est vrai qu'il fallait qu'il le fasse de manière très très cassée. Non, mais au final, c'est même pas un gros problème. C'est plus que tu sais genre juste pour la sainteté de l'objectivité qu'on apporte au film. Je pense que c'était important de le dire, mais ça casse rien quoi. C'est pas quelque chose qui te sort du film. C'est juste qu'il y a des moments où t'es juste genre. J'y aurais peut-être pas poussé autant si j'avais été à sa place, mais ça empêche pas que le film reste super agréable à regarder en fait, et que une grosse partie de ça c'est Nick Cage et son jeu quoi. Faut aussi le reconnaître parce que avec Lucas, Zoc c'est quand même celui qui a le plus de temps de temps à l'écran. Puis c'est aussi c'est tout simplement le personnage le plus colorful quoi. C'est un sorcier quoi. Le gars il fait des potions, c'est normal qu'il soit un peu grandiose et grandiloquent quoi. Donc on peut facilement lui pardonner cet écart là en fait.
Ouais, je suis assez d'accord, mais voilà, après est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur le film, je sais pas forcément. On a un peu donné les points forts et les points faibles. Après, pour faire une conclusion, moi, c'est voilà, je sais pas, bon moment. Après, c'est dur à juger en soi parce que c'était pas forcément pour nous, mais ça m'intriguerait de savoir le ressenti que peut être celui du public visé, donc d'un public plutôt d'enfants.
Mais tu vois, je pense sincèrement que si j'avais vu ce film dans mes années 5 à 10 ans,
ouais, moi j'aurais kiffé.
J'aurais probablement agréablement surpris. Alors après, peut-être moins parce que justement, il y aurait eu beaucoup de malheureusement, beaucoup de comparaisons avec tous les autres films de ce genre que je regardais à l'époque. Et faut reconnaître que malheureusement, si tu le mets à côté de n'importe quel Pixar, il tient moins la route, quoi. Donc, je pense que ça, c'est pas un mauvais film.
C'est un film honnête.
D'ailleurs. C'est un film honnête. Et on a parlé de Nick Cage, mais on a complètement oublié de lui donner une note.
Non,
donc on
je
va
suis
faire
dessus,
ça
là, j'attends.
Attends,
c'était
okay,
juste pour voir s'il y avait d'autres choses à dire avant de passer justement à cette étape primordiale de notre émission.
Non, je pense qu'on a bien fait le tour et qu'on a tout dit. Donc maintenant, c'est pas mal d'essayer de lui donner une note. Voilà, justement, comme on disait, la performance... comme je disais, moi, il y a des moments qui sont cassé, un peu plus machin, donc pour moi je pense que ça prendrait, c'est quand même tout à fait correct, donc j'y mettrais un bon 7,5, peut-être même 8.
J'allais dire exactement la même chose, j'allais hésiter pareil entre les deux mêmes notes. Je dirais plutôt 7,5 s'il fallait choisir, ou on peut mettre 7,75 si on veut couper la poire en deux.
On peut mettre 7,75, allez soyons fous,
histoire d'avoir vraiment le plus de variations de notes différentes.
Et par contre, pour sa folie, c'est un peu...
C'est un peu plus compliqué, sur un film d'animation, au final. Parce que c'est vrai qu'on juge que sur un critère. Forcément, il sera un peu désavantagé par rapport à d'autres dans sa capacité à exprimer
visage,
de la folie.
Ouais, voilà.
Surtout que c'est quelqu'un qui est très expressif au niveau du visage, qui peut l'être en tout cas. Après, en dehors de ça, son personnage, il est donc, comme tu disais, c'est un personnage de magicien qui a un peu de la fantaisie. En lui, mais sans que ça soit extrêmement poussé non plus. Donc, quoi qu'il arrive, moi, je mettrais pas forcément plus de 4, quoi.
On s'était dit qu'une moyenne, c'était 5, right? Le point 0, c'était 5. J'irais plutôt avec 5, parce que c'est pas non plus tame. Tu sais, il y a quand même des points où justement, quand il essaye de trouver son...
C'est vrai qu'il y a deux choses, en fait.
Sa pierre de feu, il y a deux, trois trucs. Donc,
Il y a le... Je dirais qu'il est à la moyenne, mais après, par rapport à la moyenne d'un film d'animation, il est peut-être un peu en dessous. Tu vois ce que je veux dire?
Ah.
Ça dépend comment tu...
Ouais. Non, bah écoute, on peut lui mettre un 4,5. Je suis tout à fait correct de couper la poire là-dessus.
Parce que c'est vrai que la moyenne d'un film classique et la moyenne d'un film d'animation, c'est pas exactement la même. C'est souvent un peu plus poussé sur les films d'animation pour compenser justement d'autres limites au niveau du jeu. Mais je me sens bien avec ce 4,5 en folie et 7,75 en performance. Ça me semble tout à fait cohérent.
Je suis d'accord avec ça aussi.
Donc, au final. On avait dit qu'on avait fait le tour, je pense. Voilà.
On a plus ou moins fait le tour du film, on a fait le tour de notre note, donc je pense que maintenant, il ne nous reste plus qu'à...
À passer au remerciement.
Au remerciement. Hein.
C'est ça. Donc, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Hein. J'espère que ça vous aura fait plaisir d'entendre parler de Lucas Fourmi malgré lui, même si c'est un film qui, a priori... après, on ne sait pas exactement nos auditeurs, leur profil, mais c'est pas forcément un film qui va vous correspondre, en tout cas à votre âge actuel.
Non, mais ça peut peut-être leur parler, peut-être qu'ils l'ont vu quand ils étaient jeunes.
C'est là-dessus que j'allais aller, justement. Nous, on fait pas partie de ceux qui l'ont vu en étant jeunes, mais il y en a peut-être qui ont un amour fou pour ce film, parce que justement, ils l'ont vu quand ils étaient jeunes, et ça serait intéressant. Limite, si vous êtes dans ce cas-là, écoutez, venez nous en parler sur les réseaux sociaux, et donc... transition magnifique, je me félicite moi-même pour vous dire de nous suivre sur les réseaux. Donc sur Twitter, @CitizenCagePod, sur Facebook et Instagram, c'est CitizenCagePodcast. Et puis vous pouvez ne louper aucun épisode en vous abonnant sur iTunes, ou Apple Podcast plutôt, je crois que c'est le terme officiel.
Je crois aussi.
Sur Spotify, sur Deezer, et puis n'importe quelle application de podcast, en cherchant Citizen Cage, tout simplement. Ou après, de toute façon, vous avez tous les liens sur les différents réseaux sociaux. Donc, si jamais vous avez un doute, c'est The Place to Be.
Venez nous parler si vous avez des questions, problèmes, quoi qu'il arrive, mais des problèmes doléances. Par rapport à Nicolas Cage. Hein,
si vous avez des problèmes avec votre mère, par exemple, et que ça se passe mal.
On peut vous conseiller un film de Nicolas Cage à lui montrer pour réparer votre problème.
Pour chaque problème de la vie, il y a un film de Nicolas Cage. Et donc,
je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on fasse sur notre épisode spécial des 2 ans.
Et pour quel problème de la vie on pourrait recommander World Trade Center? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas ça sera notre prochain épisode. Donc,
si vous êtes coincé sous des tours, peut-être qu'on peut vous conseiller.
C'est ça.
Voilà.
Donc, World Trade Center de Oliver Stone, qui sera l'épisode dans 2 semaines. Donc portez-vous bien d'ici là, puis à dans 2 semaines. Ciao.
À la prochaine, tout le monde.